L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voyez comment ce verset d'Isaïe, dont Jésus vient de faire la lecture dans la synagogue de Nazareth, avec une audace qui ne laisse pas de surprendre ses compatriotes, il se l'applique à lui-même. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Ce soir, chers frères et sœurs, c'est l'Église qui est rassemblée dans cette cathédrale Notre-Dame de l'Escar, au seuil du Triduum Pascal, alors que je vais procéder dans quelques instants à la bénédiction de l'huile des malades et de l'huile des catéchumènes et à la consécration du Saint-Crème. C'est l'Église, dans la diversité de ses membres, ceux qui, par le baptême et la confirmation, sont devenus membres du Christ, prêtres, prophètes et rois, et à ce titre participent au sacerdoce commun des fidèles. Ceux qui, par le sacrement de l'ordre, sont devenus évêques, prêtres, diacres, et sont configurés au Christ, tête et pasteur de l'Église, par le sacerdoce ministériel ou hiérarchique. Ceux qui, affligés dans leur corps par la maladie, sont associés de plus près, par l'onction des malades, au sacrifice rédempteur de Jésus. Ceux qui sont appelés au sacrement de l'initiation chrétienne et qui, par l'onction des catéchumènes, entrent dans le combat de Dieu pour être associés à la victoire du ressuscité. Il faut bien comprendre, chers frères et sœurs, que l'Église ainsi constituée, dans la diversité de ses membres, n'est pas pour autant une organisation comme les autres, une administration de fonctionnaires, où les ministres du culte et les autres agents pastoraux se répartiraient des tâches comme pour le bon fonctionnement d'une association. Elle est le corps du Christ. Et partant, elle est un organisme vivant dont le Christ est la tête et dont l'Esprit Saint est l'âme. Nous sommes les membres de ce corps. Dans le Christ, nous sommes un. Comme le dira Jeanne d'Arc au cours de son procès, quand bien même elle était jugée et condamnée par des hommes d'Église. Le Christ et l'Église mettent à vie que c'est tout un. Par cette affirmation lumineuse, elle résumait tout l'enseignement de saint Paul sur l'Église comme corps du Christ. Aussi, constituant ensemble comme une seule personne mystique avec Jésus, en vertu de notre incorporation commune au Christ par le baptême, le corps que nous formons peut s'approprier en vérité cet oracle du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer l'Évangile aux pauvres. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà l'unique mission de l'Église. Mission qui serait impossible si l'Esprit Saint ne nous avait pas consacrés par l'onction. Mission inhérente à l'identité même de l'Église comme corps du Christ, appelé à rendre présent Jésus-Christ dans le monde. Mission à laquelle nous ne saurions nous dérober sous aucun prétexte et pour laquelle nous avons précisément demandé dans la prière d'ouverture de cette messe, Dieu Tout-Puissant, puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons les témoins de l'Évangile du salut. J'ai bien conscience toutefois que cette mission que Jésus confie aujourd'hui à son Église, parce que c'est aujourd'hui pour nous que cette parole s'accomplit, est redoutable. En un temps précisément où son visage est défiguré par les scandales et où son message semble discrédité auprès de tant de nos contemporains, Sans doute sommes-nous honteux de ces scandales étalés dans la presse, mais nous ne voulons pas pour autant nous laisser voler ni notre onction, ni notre mission. Nous refusons, comme Jésus, que les coupables soient condamnés par des coupables, d'où la parole qu'il adressait aux pharisiens, lui amenant une femme prise en flagrant délit d'adultère, que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre. Jésus lui-même se refusa à condamner les coupables, même s'il mérite une juste peine qui doit d'ailleurs toujours être médicinale. En revanche, il condamne avec la plus grande fermeté le péché, mais en se faisant péché pour nous et en détournant sur lui-même le jour de la vengeance de Dieu, évoqué par le prophète Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue, mais omis par Jésus dans l'Évangile, jusqu'à se laisser librement condamner à mort pour nous sauver. Les scandales causés par certains membres de l'Église nous appellent certes non à la condamnation ni au découragement, mais à la purification, à un nouvel élan de sainteté sans lequel il n'y aura pas de nouvel élan missionnaire dont nous savons la particulière urgence aujourd'hui. Sans doute devons-nous, comme Jésus, donner de notre personne par l'écoute et la compassion concrète envers les victimes, par le jeûne et la prière aussi, pour réparer tant d'ignominies, en nous offrant nous-mêmes, en union avec le Christ, dans son sacrifice d'expiation, rendu présent réellement dans la Sainte Eucharistie. Mais nous ne pourrons pas annoncer l'Évangile sereinement et sans rougir si nous ne montrons pas, par un témoignage renouvelé, ce plus beau visage de l'Église qu'est la sainteté. Appuyons-nous sur l'exemple et l'intercession de cette cohorte innombrable de saints d'hier et d'aujourd'hui, trop méconnus par nos contemporains, sans oublier ce que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté, ceux, dit-il, qui vivent proche de nous et sont un reflet de sa présence. C'est que l'Église sera toujours et jusqu'à la fin des temps, selon les images suggestives de Jésus dans les paraboles évangéliques, ce champ où pousse à la fois le bon grain et l'ivraie, ou encore ce filet de pêche qui contient des bons et des mauvais poissons, l'Église n'en restera pas moins jusqu'à la fin des temps le champ de Dieu et le filet de Dieu. Parmi vous, chers frères et sœurs, j'en ai la conviction, comme pasteur de ce diocèse, ils sont présents, ces saints de la porte d'à côté, qui, malgré leurs limites et leurs défaillances, vont de l'avant avec la grâce de Dieu et donnent au monde un témoignage lumineux qui ne trompe pas les hommes et les femmes de bonne volonté, même s'ils restent tellement inconnus des médias. Je pense à vous, chers frères et sœurs laïcs, mariés ou célibataires, auxquels je veux associer nos diacres permanents, engagés sur tous les fronts de la justice et de la charité, en particulier envers les plus pauvres. Je pense à vous lorsque vous accomplissez fidèlement vos devoirs d'État, malgré les épreuves et les difficultés de la vie, et qui vous refusez à déserter l'Église, parce que vous savez qu'elle a reçu du Seigneur les promesses de la vie éternelle, de telle sorte que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Je pense à vous, chers frères et sœurs malades, qui achevez dans votre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église, comme dit saint Paul. Votre témoignage de souffrant, uni au Christ souffrant, est précieux pour la purification de l'Église et la rédemption du monde. Je pense à vous, chers consacrés, qui servez fidèlement le Seigneur et vos frères jusqu'à épuisement de vos forces. Je pense particulièrement à vous, chers frères et sœurs contemplatifs, qui, loin du tumulte de la rue, porter dans une fidélité admirable les souffrances des hommes et de l'Église dans cette prière continuelle qui sauve le monde. Votre prière avec Jésus sur la montagne est plus féconde que nos réunions, nos actions et nos déclarations. Et vous, chers frères prêtres, qui allez renouveler dans quelques instants les engagements de votre ordination sacerdotale, vous faites partie de cette majorité immense de prêtres qui portent fidèlement le poids du jour et de la chaleur et se donnent généreusement, souvent sans bruit et sans gloire, au service du peuple de Dieu, qui a tant besoin de vous pour être éclairé par la parole de Dieu, sanctifié par les sacrements, écouté, guidé, accompagné dans leur vie. Et si votre célibat est tant décrié et si mal compris, vous savez d'expérience combien, s'il s'enracine dans l'intimité avec Jésus et se déploie dans la gratuité du don de vous-même à vos frères, il demeure le lieu béni et privilégié de votre fécondité et d'une joie que nul ne saurait vous ravir, ne vous étonnez jamais que le monde ne comprenne pas cet engagement et sa cohérence avec votre consécration totale au Seigneur. Tous ne comprennent pas, mais seulement ceux à qui cela est donné, dit Jésus dans l'Évangile. Je pense à vous aussi, chers séminaristes, qui avez l'audace, parfois après avoir renoncé à des études ou à une carrière professionnelle, de vous engager sur ce long chemin de formation sacerdotale pour devenir les disciples et les apôtres de Jésus. Appuyez-vous sur le Seigneur et non sur vos propres forces. Appuyez-vous aussi sur la fidélité de vos aînés. Et malgré les turbulences qui secouent l'Église, ne vous laissez pas voler votre enthousiasme à suivre le Christ. Ne vous laissez pas voler votre espérance, vous ne serez pas déçus, le monde a besoin de vous. Je pense à vous aussi, chers jeunes, qui avez rencontré le Seigneur et fait l'expérience authentique de l'Église et qui recherchez jour après jour une vraie cohérence de vie avec votre foi pour faire connaître Jésus aux jeunes de votre génération. Ne vous laissez pas gagner par le doute à cause des scandales qui blessent le visage de l'Église. Sachez découvrir le visage authentique qu'elle continue de vous offrir tout près de vous. Je sais que la figure de Jésus continue de vous attirer. À preuve, ces inoubliables 48 heures pour Dieu, vécues avec 170 jeunes de notre diocèse à Pau, pour ces dernières journées diocésaines de la jeunesse, le week-end dernier. Vous savez que Jésus est inséparable de son Église, c'est son corps, c'est son épouse, à laquelle il s'est uni pour ne plus faire avec elle qu'une seule chair. Il a tellement aimé l'Église, dit saint Paul, qu'il s'est livré pour elle. C'est à son Église qu'il a donné mission de le manifester au monde. C'est dans l'Église qu'il vit et qu'il vous sauve. Soyez attentifs aux appels qu'il veut faire résonner dans vos cœurs. N'ayez pas peur d'y répondre généreusement. Mais Jésus mérite bien qu'on lui consacre toute sa vie. Chers frères et sœurs, demandons précisément la grâce de grandir toujours dans le sens de l'Église. Un vrai sens de l'Église qui résiste à toutes les turbulences qu'elle traverse, à tous les scandales qui la blessent de l'intérieur et à toutes les sirènes qui la dénigrent purement et simplement dans le seul but de nous en éloigner. Comme l'écrivait en son temps Madeleine Delbrel à propos de ce qu'elle qualifiait d'un vrai prêtre et qu'on pourrait étendre à tout vrai chrétien, je cite, qu'il ne parle jamais de l'Église à la légère, comme étant du dehors, un fils est tout de suite jugé, qui se permet de juger sa mère. Devant les scandales, certains voudraient apporter des réformes, au risque de repenser et de refaire une autre Église. Mais comme le souligne le pape émérite Benoît XVI dans un document publié il y a quelques jours, je cite, « C'est quelque chose qui a déjà été expérimenté et qui a échoué. Seule l'obéissance et l'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ peuvent nous montrer la voie à suivre. » En effet, chers frères et sœurs, la vraie réforme dont l'Église a besoin plus que jamais et qui ne fera pas l'économie sans doute d'une exigeante purification, c'est la sainteté. Comme l'écrit encore le pape émérite, l'idée d'une meilleure Église créée de nos mains est en fait une suggestion du diable par laquelle il veut nous détourner du Dieu vivant dans une logique mensongère qui nous dupe facilement. Non, l'Église n'est pas uniquement constituée, même actuellement, de mauvais poissons et d'ivraies. Aujourd'hui, l'Église de Dieu existe également. Et c'est justement aujourd'hui qu'elle demeure l'instrument par lequel Dieu nous sauve. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, en ces temps troublés, j'ose faire mienne la joyeuse espérance exprimée en son temps par le grand théologien Romano Guardini. Un événement d'une portée incommensurable a débuté. L'Église se réveille dans les âmes. C'est le sens de la messe chrismale que de nous renouveler dans l'onction du baptême, onction de l'huile de joie dont parle le prophète Isaïe. Plongés dans cette onction, nous voulons nous engager ensemble dans un grand esprit de communion fraternelle dans la voie de la sainteté. Au seuil du Triduum pascal, confions cette détermination à la Vierge Marie, Mère de l'Église et Reine de tous les saints. Amen.